Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des grandes voix avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Michel Cotta et Catherine Ney. Cette fois-ci, c'est perdu. Les Britanniques auront eu raison des Français en matière de pêche post-Brexit. Il n'y aura pas de licence de pêche supplémentaire. Résultat, l'État va indemniser. On parle d'une enveloppe située entre 40 et 60 millions d'euros. Entre les sous-marins australiens et la pêche britannique, on a l'impression que ce vieux conflit qui nous oppose aux Anglois se poursuit, Catherine Ney.
Non, il ne faut pas voir les choses comme ça parce qu'il y a des torts des deux côtés et que c'est un sujet éminemment politique. Les eaux, la nationalisation des eaux, c'est ce que voulaient les Anglais. Les Anglais ont récupéré la souveraineté sur leur mer. Depuis 2016, depuis le vote du Brexit, on savait que les autorisations de pêche, parce que c'était un sujet récurrent, n'auraient de licence que ceux qui pouvaient, qui avaient déjà pêché, notamment, puisqu'on parle de l'île de Jersey aujourd'hui, les eaux autour de Jersey qui font problème. Il fallait montrer par des factures téléphoniques, par je ne sais quoi, parce que tous les bateaux, les petits bateaux, ne sont pas équipés comme les grands pour faire une traçabilité de leur chemin, montrer qu'on avait déjà pêché dans ces eaux-là, des balisés. Ouais. Bon. Or, moi, je pense qu'il y a eu de la négligence du côté français qui n'a pas préparé les bateaux français, qui est peut-être de la négligence du côté des pêcheurs qui ont cru que le Brexit, ça arriverait tard. Mais ça, c'est le seul. Vous voyez, pour Boris Johnson aujourd'hui, face aux Anglais, la fierté britannique dans ce combat, c'est de dire « mes eaux sont les miennes et je donne à qui je veux ». Et vous voyez que c'est très difficile pour les Français parce qu'on a dit « les Anglais, il faut les mettre au pas ». Il faut les mettre au pas. D'ailleurs, on va leur interdire leur port, comme on a fait avec des bateaux anglais. Et puis, vous avez entendu que les bateaux n'ont pas déchargé. Et pourquoi les bateaux déchargent? C'est parce que le poisson anglais qui arrive dans les ports français, eh bien, il est conditionné en France, travaillé en France. Et c'est ça qui fait des emplois. Donc, si vous empêchez un bateau anglais de venir accoster, de décharger son marché, c'est contre-productif. On se punit nous-mêmes. Donc, c'est très, très difficile de régler ce problème. C'est pour l'Europe, c'est 150, c'est terrible pour eux, mais 150 pêcheurs, évidemment, c'est peanuts. Hein.
C'est des vies brisées, entendez les témoignages des pêcheurs.
Oui, mais bien sûr que c'est des vies brisées. Bien sûr que c'est terrible. Mais je dis qu'il y a une mauvaise préparation, on ne les a pas habitués, on ne les a pas préparés à ça, mais aujourd'hui, le problème de l'Europe, c'est l'Irlande. Et ça, c'est un vrai problème qui risque de raviver la guerre entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud.
Moi, je pense, j'abonde par rapport à tout ce que vient de dire Catherine. Mais je pense qu'il y a un facteur qui a aussi tout changé complètement, c'est les difficultés de politique intérieure du Premier ministre britannique.
Oui, voilà.
Et pour trois raisons, je ne vais pas les énumérer de toute façon, mais il est dans une véritable difficulté. Et du coup, pêcheurs,
oui.
Absolument. Il y a un gros problème, c'est que les ténors du parti conservateur auquel le Premier ministre appartient, bien sûr, se sont fait payer des missions de conseil en parallèlement à leurs activités politiques. Et ça fait scandale. Il y a deux autres raisons, et notamment, par exemple, son grand plan d'aménagement des trains à grande vitesse ne passe pas du tout. Il a rencontré une opposition formidable sur ce plan-là.
Donc,
il sera d'autant plus dur, de toute façon, sur le sujet. Et du coup, les pêcheurs français se retrouvent otages des difficultés entre le fait qu'on a trop traîné, pour moi, le secrétaire d'État à l'Europe français a trop traîné. Il aurait pu, techniquement, emballer, en quelque sorte, la négociation beaucoup plus rapidement. On a joué le temps se retrouve contre nous.
Ouais. Il y a aussi un vrai problème, je pense, entre Boris Johnson et Emmanuel Macron. On dit que c'est la détestation cordiale. Ils se détestent, chacun des deux méprise l'autre, et ça, c'est nouveau en France, par exemple. Même François Mitterrand, socialiste, se sentait très proche de Margaret Thatcher, qui était conservatrice. Donc c'est nouveau, Tony Blair était révéré par une partie de la gauche française social-démocrate.
Mais pourquoi faire cette comparaison? La situation a changé aujourd'hui.
Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est quand les deux se détestent, et les deux se détestent parce que, justement, c'est Emmanuel Macron qui a fait pression au dernier moment de la négociation pour ralentir le mouvement, alors que l'Allemagne voulait aller plus vite, etc. Ouais. Et de là,
vous voulez bloquer les ports.
Et de là est née une vraie détestation entre Johnson et Macron.
Oui, mais on s'est mis dans une impasse dont les pêcheurs pourraient
la vie politique.
Payer l'addition, c'est ça la réalité.
Mais ça compte aussi dans la vie politique.
Comme on approche de la fin, je ne reviens pas sur le dossier de la pêche avec les Anglais, parce que Catherine l'a très bien exposé, et après vous l'avez fait aussi. Moi, je voudrais simplement un regard sur la politique extérieure, la politique régalienne de notre président de la République, puisqu'on est en allée électorale. Je regarde quoi et je vois à chaque fois, je vois des moulinets velléitaires. Je vois une attitude velléitaire. Velléitaire sur la pêche. Les Anglais, oh là là, ils vont voir ce qu'on va... Bon, on a vu. Les Américains.
Ceci étant, c'est Barnier qui a négocié.
Les Américains.
Non, mais alors ça. Non, alors là, non. Ne fait rien à voir.
Il n'a rien à voir. C'est une mauvaise foi.
Elle
est courte.
Les Américains avec les sous-marins.
C'est injuste, totalement.
Les Américains après l'affaire des sous-marins. Oh là là, on va voir ce qu'on va voir. Il y a eu des déclarations très fortes du ministre des Affaires étrangères. On a vu les Américains faisant une fausse excuse, et puis c'est terminé.
Clumsy.
On a vu le Liban avec les déclarations régaliennes sur le port de Beyrouth, et on a vu ce que ça a donné après. On a vu l'Algérie avec les moulinets sur les visas.
Oui, on va
vous pouvez me dire ce que ça a donné. Oui. Et on pourrait ajouter la Pologne aussi, où on a pris des allures martiales à l'égard des Polonais. Je n'aurais pas l'outrage ou l'outrance de parler de la Russie, d'un dialogue qui devait recommencer, qui est au point zéro, et même de nos amis africains, puisque l'Afrique, c'était notre domaine soi-disant réservé, et qu'on n'est même pas foutu d'avoir les chefs d'État à notre réunion annuelle.
La politique régalienne, c'est pas mal, le dernier sommet avec les jeunes africains.
J'enlève le dernier sommet, mais le reste, je maintiens.
Surtout, on peut aussi maintenir ça du côté de l'Europe, hein. Par exemple sur la Pologne, il est évident que l'Europe est très embarrassée, puisque on s'apprêtait à lui faire la morale et maintenant on est quand même obligé de l'aider. Sur les pêcheurs, l'Europe ne s'est pas mobilisée. L'Europe s'est dit, on ne va pas se mobiliser pour 45 pêcheurs français, donc elle ne s'est pas mobilisée. Et d'ailleurs, le président a dit qu'elle était trop molle. Mais c'est vrai que du point de vue international et sur la Russie, on est dépendant quand même beaucoup de l'Europe, et moi je souhaite beaucoup de plaisir à Emmanuel Macron de conduire cette Europe de janvier pendant les 6 mois, juste avant sa présidence.
Oui, d'ailleurs il fait bien de commencer sa campagne en France, aller un peu partout, parce qu'il va être obligé après de... On ne peut pas tout faire en visioconférence quand on veut avoir une présidence européenne qui marche et qui entraîne les gens.
Il faut du présentiel.
Bon, il faut du présentiel, comme on dit. Non, mais sur les pêcheurs, il y avait 3 pays qui étaient concernés par la pêche. Il y a la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark et la France. Le Danemark, qui était très content, vient d'apprendre des Anglais qu'ils veulent transformer leur zone de pêche en zone de réserve naturelle et dont ils pourraient être exclus eux-mêmes. Donc là, les Anglais veulent faire savoir à l'Europe qu'ils ont repris la souveraineté sur leur mer, qu'ils sont chez eux. Et ils disent aussi, vous les Français, si c'était vous, eh bien, vous feriez pareil. Donc,
mais Catherine, avons un atout quand même. Où vont-ils vendre leur
bien
poisson
sûr. Mais bien sûr, c'est... Oui.
Et c'est pour
sinon,
ça qu'il faut...
en France, il faut consommateurs.
C'est ce que disait Catherine, c'est qu'il faut rester... dire un peu tranquille sur les
C'est
comme menacer de couper l'électricité à l'île de Jersey. Là, vous dites,
les menaces, il faut les faire.
Merci les grandes voix. Je vous souhaite un très bon week-end et nous saluons Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix. Ça ne vous a pas échappé, hein, c'est la semaine du Beaujolais nouveau. Eh bien, on va le tester avec Yves Candebord ici présent et Charlotte Langrand. Et puis l'humoriste Jonathan Lambert viendra casser la croûte avec nous autour d'une brandade de morue. On vous attend, les amis.
C'est du poisson, ça tombe bien. À tout de suite.